batailles politiques. Sa pensée se présente selon des fronts articulés aux politiques, où Marc Floriot a dégagé trois moments: avant-coureur de la guerre, l'utopie militaire autour de la revue Contre-attaque, l'utopie de l'individu avec la revue Acéphale, et enfin l'utopie communautaire avec le Collège de sociologie. Parmi les écrits cités dans l'émission, La structure psychologique du fascisme, un texte considérable, où Georges Bataille considère, quant à la source, la force du meneur qui s'apparente à l'hypnose, l'identification morale au chef, l'hypnose, dit-il, vont permettre de concentrer sur celui-ci une énergie collective dont il va disposer sans limite. Georges Bataille écrit, sous le politique, il y a aussi le monde des amants, la communauté cachée. Sous la politique, il y a le sadisme et le masochisme.
Repartons pour une deuxième heure en quête d'une personnalité hors du commun. Tour à tour activiste, médiatrice et prophétique, en quête du profil perdu de Georges Bataille, dont l'action dans la vie et sur les consciences de ses contemporains a compté tout autant et souvent plus que ses propres œuvres. À travers ce profil perdu, avec Georges Bataille, il s'agit de ressusciter des moments décisifs, méconnus souvent, de la vie culturelle, de ce qui animait les consciences du XXe siècle à ses débuts, de saisir le mouvement subtil des idées, de retrouver des traces de ses engagements dans le siècle. Lors de la première partie de ce profil perdu, le roman des origines de Bataille, le roman approximatif de ses opinions, de ses convictions ou de ses conversions, Bataille a 17 ans seulement quand il sait déjà que son affaire dans ce monde est d'écrire, et en particulier d'élaborer une philosophie paradoxale. De sa naissance donc en 1897, nous nous sommes arrêtés au début des années 30, où il prend la direction de la revue Document, où d'emblée son activité éditoriale invitait à relever les traces du refoulé sur lequel s'édifie la rationalité occidentale, et cela en marge des lieux communs esthétiques. 10 ans, d'environ 1930 à 1940, au fil du temps, voici maintenant la permanence d'un ton, d'arrière-plan ou de front que Georges Bataille a articulé sur le politique. Ce deuxième volet représente trois moments: avant-coureur de la guerre, l'utopie militaire avec Contre-attaque, l'utopie de l'individu et du secret avec Acéphale, et enfin l'utopie communautaire avec le Collège de sociologie. Profil perdu, Georges Bataille, deuxième partie, par Marc Floriot.
Je ne vois pas très bien ce que je pourrais faire d'autre que ce que je fais. Je suis bibliothécaire de profession, j'écris des livres. Je peux évidemment changer les bibliothèques pour une autre occupation.
Vous dirigez aussi une revue.
Je dirige une revue.
Alors, est-ce que si vous n'étiez pas écrivain vous-même, vous aimeriez diriger probablement les autres ou non?
Oh, sûrement pas.
Sûrement pas.
Sûrement pas. J'ai eu des velléités du côté de la politique. Mais ces velléités me sont toujours assez vite apparues presque ridicules.
Document disparaissant, Bataille se retrouve de nouveau seul. Il faut qu'il rejoigne à ce moment-là un nouveau groupe.
Ce que nous avons entrepris il y a peu de mois, nous l'avons entrepris d'accord au moins sur ce point, qu'il était impossible pour nous d'entrer dans de trop grandes précisions. Nous savions bien d'où nous partions, et nous savions aussi qu'il s'agissait de tourner le dos à ce qui n'était déjà plus qu'un passé. Mais nous ne savions pas où nous allions, et nous ne pouvions pas le savoir. La seule publication qui ait servi de signe à notre activité a répondu d'ailleurs par son caractère à de telles conditions. Elle garde pour mérite de signifier, même d'une façon apparemment absurde et courte, le congé que nous prenions de ce qui semblait nous avoir engagé jusque-là. Mais elle n'envisageait rien qui puisse donner une satisfaction, si faible qu'elle soit, à ceux qui exigent de l'action qu'elle ait un but précis. la seule réponse valable que nous pouvions opposer à l'ironie, réponse valable d'ailleurs dans la mesure où nous la gardions pour nous-mêmes, c'est que l'action telle que nous l'entendons ne peut pas recevoir de but limité.
Nous sommes en 1931. La datation est importante car elle coïncide avec la prise de conscience politique de Bataille.
Michel Suria.
Bataille rejoint des communistes, mais des communistes déjà oppositionnels. Un groupe qui est dirigé par Boris Souvarine. Il revient comme un déçu de l'expérience communiste en Union soviétique. Il agroupe autour de lui des gens qui sont des penseurs de la gauche communiste oppositionnelle. Et Bataille s'y mêle sans jamais s'y mélanger. Bataille va donner à cette revue la structure psychologique du fascisme et la notion de dépense. Ce sont deux textes considérables, témoignant sans doute de la plus grande acuité de l'engagement politique de Bataille avant-guerre.
Considéré non quant à son action extérieure, mais quant à sa source, la force d'un meneur est analogue à celle qui s'exerce dans l'hypnose. Le flux affectif qui l'unit à ses partisans, qui prend la forme d'une identification morale de ceux-ci à celui qu'ils suivent, et réciproquement, est fonction de la conscience commune de pouvoir et d'énergie de plus en plus violent, de plus en plus démesuré, qui s'accumule dans la personne du chef et deviennent en lui indéfiniment disponibles.
Il n'est pas question de dire de Bataille qu'il aurait été le seul qui aurait deviné, ou qui aurait su, ou qui aurait prédit, ou qui aurait alerté. Parce qu'effectivement, des gens comme Breton, les surréalistes, des gens comme Romain Rolland, d'autres encore, à ce moment-là, étaient tout aussi avisés, savaient tout aussi bien ce qui allait survenir. Mais il était le seul qui disposait des rudiments d'une pensée qui rendait peut-être possible que cela fût évitable. On a pu dire qu'en 1933, aussi un autre homme, Wilhelm Reich, a écrit un livre qui n'est pas sans analogie que celui de Bataille. Ça, c'est un fait, mais l'un et l'autre s'ignoraient.
Cette revue fit sensation et même fit scandale, mais elle n'eut qu'un seul numéro. À cette époque, il y avait à Paris quelques 80 000 immigrés allemands, ouvriers et artisans.
Boris Souvarine, secrètes, les associations le cercle communiste démocratique, la critique sociale. Michel Liris.
Un cercle animé par Boris Souvarine, et qui était fortement anti-stalinien, et qui n'était pas trotskiste, qui avait plutôt une tendance à renvoyer Staline et Trotsky dans un autre. Mais enfin, c'était un cercle qui serait peut-être excessif de dire libertaire, parce que c'était un cercle marxiste quand même, mais enfin, fortement, fortement anti-stalinien, alors qu'il publiait une revue intitulée « La critique sociale », où nous sommes un certain nombre à avoir collaboré, Bataille notamment, qui a publié un article de lui fort important dans sa bibliographie, qui est « La notion de dépense », inspirée par l'essai sur le don de Marcel Mauss, et qui est en somme la première version, la première esquisse du livre économique de Bataille, « La part maudite ».
Opposée à l'existence misérable des opprimés, la souveraineté politique apparaît en premier lieu comme une activité sadique clairement différenciée. Dans la psychologie individuelle, il est rare que la tendance sadique ne soit pas associée dans une même personne à une tendance masochiste plus ou moins ouverte.
De notre côté, ce réseau de la critique sociale, presque paradoxalement, mais enfin, sauf si l'on est
Francis Marmande,
naïf, est un réseau extraordinairement fort du point de vue affectif. C'est-à-dire qu'il y a là des amitiés, des haines, des présences, des repoussoirs, des histoires d'amour, des drames dont on aurait tort de passer trop vite la force au compte du silence, parce que ce sont ces lignes-là et ces forces-là qui étaient réellement les tensions sur lesquelles apparaissaient les tensions politiques. La présence de Colette Peignot, le lien qu'elle a assuré entre des personnalités aussi différentes que Souvarine, Bernier et Bataille est une chose dont on sait maintenant qu'elle est tout à fait considérable dans la vie et dans l'œuvre de Georges Bataille.
Alors, Bataille écrit le bleu du ciel, j'allais dire le dieu du ciel.
Jean-Pierre Fay.
Et ce bleu, c'est en même temps la guerre d'Espagne. Et c'est le livre le plus beau, le plus rêveur, le plus réaliste en même temps, et le plus erratique, le plus désordonné. sur ce moment.
Plus ruineux.
Ruineux, ruiné. Et au milieu de ça, il y a d'ailleurs un personnage très maltraité, alors que c'est une figure sublime, et qui est Simone Veil, qui devient Lazare. Le pauvre Lazare, vraiment, c'est un repoussoir dans le livre, le repoussoir de l'or, d'Heurté. Mais l'or, Colette et Simone Veil se tiennent la main dans la main, là, toutes deux amies et compagnes, ou ex-compagnes de Souvarine, c'est-à-dire mêlées à l'histoire la plus affreuse du stalinisme des années 30, et en même temps, toutes deux combattantes, antifascistes, antinazies, mais si fragiles et si malades, toutes deux, déjà, promises à la mort.
En 1934, très précisément, Bataille, on le sait maintenant,
Francis Marmande
jette les premières lignes d'un livre qu'il intitule, et on connaît le titre, et cela rejoint chez Georges Bataille cet effort répandu sur toute sa vie de mettre en projet des livres, des paragraphes, des chapitres dont il donne les titres, les sous-titres. Il y a autant de bourgeons abandonnés, ce que la botanique appelle les œils morts, mais enfin qui étaient là comme projet. Au fond, l'œuvre complète de Bataille est considérable, mais son œuvre inachevée, je pense, est encore plus considérable. Alors, en 1934, il prévoit un livre, il faut être attentif tout de même aux dates aujourd'hui, qui se serait appelé « Le fascisme en France ». Si l'on se reporte à l'époque, on voit que c'est un homme qui n'est pas tout jeune, qui a une quarantaine d'années, qui n'a pas écrit encore de livre publié sous son nom, qui n'a publié que des récits anonymes ou sous pseudonymes extrêmement brefs, très violents, très sulfureux et qui ont une réputation étrange, et qui a publié énormément d'articles dont on ne peut pas dire qu'ils annoncent particulièrement les grandes œuvres théoriques de Bataille. Bien sûr, ils les annoncent totalement, mais voilà quelle est la figure de Bataille en 1934. Or, en 1934, restant parfaitement dans sa logique de critique, de théoricien, de concepteur de la revue Document, d'activiste à la critique sociale, il prévoit un texte d'histoire politique, ce qui se appelait « Le fascisme en France ». Je rappelle tout de même qu'en 1934, ils n'ont pas l'air d'être si nombreux, ceux qui se préoccupent d'écrire un livre sur le fascisme en France. Or, ce livre, il ne l'écrit pas, il le laisse en plan, et en revanche, ce qui lui vient à la place, c'est ce récit tout à fait étrange, décousu, éclaté, violent, en flammes, en larmes, qu'est le bleu du ciel. Ce bleu du ciel vient donc se poser à la place de ce livre théorique qui n'a pas été conduit, car celui-là a été écrit, le bleu du ciel. Ça raconte de quoi ? Le refoulé du politique, c'est-à-dire que sous le politique, il y a la communauté secrète des amants, par exemple, qui envahit tout. Quand Bataille dit « le monde des amants » n'est pas moins vrai que celui de la politique. Il absorbe même la totalité de l'existence, ce que la politique ne peut pas faire. Au sortir de la critique sociale, c'est-à-dire au moment précis où il croyait le plus à l'activisme politique et où autour de lui, on y croyait le plus, il y a quelque chose de très tranchant là-dedans, et voilà. Alors, dernier paradoxe, Le Bleu du Ciel non seulement remplace un livre qui ne s'est pas fait, mais Le Bleu du Ciel n'est pas publié et sera publié 20 ans plus tard. C'est là qu'on entre dans une étrange activité de la table des matières, qui est l'activité même de l'histoire dans l'œuvre et qui n'est pas la projection, l'ombre portée, le reflet, les traces de l'histoire à travers l'œuvre, comme on les cherche et comme on les explique, assez raisonnablement d'ailleurs, le plus souvent.
L'époque décisive de Bataille, ça va être les années 30.
C'est Jean-Pierre Fay.
L'œuvre est la plus prodigieuse à mes yeux, mais en même temps, c'est une œuvre complètement gratuite puisqu'il ne la publie même pas, il s'en occupe pas, ce sont des fragments épars, des notes, des inédits ou des articles dépensés dans diverses revues et non recueillis à aucun moment par lui, plus tard ou au moment même. Or, il y a là une profondeur, une pertinence, un caractère opératoire de sa pensée, et cette pensée est toujours écrite comme le jet d'une fiction, d'une invention. Elle n'est jamais sentencieuse et didactique ou magistrale.
De toutes parts, dans un monde qui cessera vite d'être respirable, se resserre l'étreinte fasciste. L'échec d'un soulèvement socialiste à Vienne se laisse lire sans la moindre hésitation. Autriche, nazis. sauver ce monde du cauchemar, de l'impuissance et du carnage où il sombre, seul un océan d'hommes soulevé le pourrait. Ce sera le sens, en 1935, de Contre-attaque. Il se lie avec Pierre Klossowski, avec Georges Ambrosino, c'est la dissolution du cercle communiste démocratique. Son but, retrouver la violence révolutionnaire. Ses axes, un antinationalisme violent, l'anticapitalisme, l'antiparlementarisme, voire l'antidémocratie. Son ambition, substituer au mythe victorieux du fascisme des mythes nouveaux. La révolution sera morale, affranchissement des enfants, sexuelle, libre jeu des passions, ses auspices, Sade, Fourier, Nietzsche.
Bataille, à ce moment-là,
Michel Suria
va prendre l'initiative d'un groupe qui s'appelle Contre-attaque, groupe auquel il rallie ceux qui l'ont suivi après la dissolution de la critique sociale. Nous sommes en 1935. Et il est surréaliste. La première fois, vraiment la première fois, que Bataille et Breton travaillent ensemble à la formation d'un groupe où on trouve des gens aussi différents que Pierre Klossowski, que Maurice Haine, que Gilbert Lellie, que Benjamin Perret, que Paul Éluard, que Georges Ambrosino, que, enfin voilà, Chenon, etc., d'autres encore. C'est l'ultra-gauche intellectuelle à ce moment-là. Le groupe n'arrivera pas à véritablement se fédérer. Le monde du merveilleux de Breton trouvait sa fin dans ce que Bataille disait du monde monstrueux, du monde bas, du monde servile, du monde qui allait trouver à s'alimenter dans le fascisme, et le fascisme allait trouver à s'alimenter dans ce monde-là.
Je donne la parole à Georges Bataille.
Je voudrais commencer par un exemple assez pertinent où l'efficacité n'est pas douteuse. À vrai dire, ce n'est pas un exemple classique parce que la trompette guerrière, dont j'aimerais vous parler, passe pour être au moins très vulgaire. Mais qu'est-ce que cela signifie? Peut-être c'est que c'est la forme d'art la plus accessible aux hommes les plus simples, celle qui a joué le plus parfaitement sur eux. Et somme toute, elle a le rôle le plus en rapport avec la question qui nous agite aujourd'hui, puisque les gens auxquels elle s'adresse sur le champ de bataille sont des gens qui vont mourir et qui sont par conséquent censés être dans l'angoisse. Or, il n'est pas sûr qu'ils le soient, mais dans la mesure où ils ne le sont pas, il me semble que leur façon de surmonter l'angoisse a pour réponse justement les accents de la trompette guerrière, c'est-à-dire ce commencement d'ivresse qui doit faire passer de l'angoisse à son contraire, en ce sens justement que, par elle, l'instant présent seul compte et que le souci de l'avenir est tout à fait levé et que par conséquent on peut se jeter dans l'absurdité du combat.
Eh bien, messieurs, mes chers amis, il me semble que Georges Bataille vient de nous jeter vraiment à la face des propos qui constituent une véritable provocation.
Ils se rendaient très bien compte de la position quelque peu insolite qu'il avait.
Michel Risse.
Il était loin d'être un utopiste naïf. Il pouvait se lancer dans des idées très paradoxales. Mais en fait, il se rendait parfaitement compte du paradoxe. Je me rappelle par exemple, à l'époque de Contre-attaque, quand il s'était réconcilié avec Breton et qu'ils avaient fondé ce groupe antifasciste dans les années de quoi peu après 34, eh bien, à l'époque de Contre-attaque, je ne crois pas que ça ait paru dans le journal, je ne crois pas qu'il l'ait publié par écrit. Mais moi, il me disait assez couramment que ce qu'il faudrait faire pour trouver un mythe et un rite à la gauche, ce serait de fêter à la place de la Concorde la décollation de Louis XVI. Mais ce qui était, moi, c'était une idée qui me paraissait, enfin, totalement farfelue. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai pas dit rien contre-attaque. Mais lui, il croyait sur le plan du... Il se rendait bien compte que c'était un paradoxe, que c'était une idée, enfin, très, disons, très osée, téméraire. Mais enfin, il y croyait. Il y croyait tout en se rendant compte de ce que ça avait de peu acceptable. Trop utopique.
En même temps qu'Inquisition apparut Acéphale, en effet, la revue de Bataille et de Masson. Caillois cherche la rigueur. Bataille fait appel au cœur, à l'enthousiasme, à l'extase, à la terre, au feu, aux entrailles.
Bataille, là encore, triomphe tristement parce qu'il n'est pas suivi. Et on peut presque dire qu'à ce moment-là, Bataille considère que la possibilité d'engagement est révolue.
Jean-Pierre Faye.
Il y a ce qu'il appelle ceux qui sont enchaînés au passé, et ce sont justement les nazis, c'est ça le fascisme, ceux qui sont enchaînés au père, enfin. Et il y a les déchaînés du passé, les délivrés, et ceux-là sont les enchaînés à la raison. Ce que n'enchaîne pas la raison, dit-il au moment d'Acéphale, alors à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, ceux-là que n'enchaîne pas la raison sont les esclaves du passé. Et donc, une délivrance qui passe par le rire, la raison, et en même temps une attention suraiguë à la virulence de la déraison. Et ça, je crois que c'est le secret de Bataille qui le rend si pertinent aujourd'hui. Parce qu'il est celui qui a essayé de démonter le piège terrible dans lequel l'Europe va s'enfoncer dans les années 30, mais qui, en même temps, ne se laisse pas captiver ou capturer. Alors que l'attitude, l'oscillation de l'époque, ça va de la position qui consiste à dire « je ne veux pas penser tout ça », Je suis du bon côté. Et puis l'autre qui s'en approche pour voir et qui tombe dans le trou noir.
Oui, c'est-à-dire je crois que c'est en effet...
Philippe Sellers.
Une des expériences qui nous pousse à penser qu'il n'y a pas d'un côté la vie d'un homme et de l'autre... un discours de cet homme. Voyez-vous, on peut faire l'économie avec Bataille des pénibles révélations que l'on apprend parfois sur tel ou tel penseur d'envergure qui n'aurait pas été dans la vie courante tout à fait convenable dans ses actes et dans sa pratique par rapport à la pensée sublime qu'il a par ailleurs effectivement pensée. Autrement dit, une affaire Heidegger pour Bataille est tout à fait impensable. Le silence de Bataille est quelque chose d'assez éloquent et voulu comme tel. Quand je l'entends dire avec un sourire légèrement amusé, certes personne ne peut être aller plus loin, certes personne ne peut aller plus loin dans la sagesse sans doute que Blanchot, c'était une forme très très ambiguë d'approbation, d'admiration et en même temps de critique, c'est pas parce que c'était ironique.
En effet, je m'appelle que Bataille avait formulé cette exigence.
Michel Léris.
Aucun membre d'Acéphale de ne fait serrer la main à un antisémite.
On parle beaucoup du plus grand philosophe du siècle, formule absurde, à propos de qui vous savez. Eh bien, je dirais que le plus grand penseur, ce n'est pas Martin Heidegger, car si on s'est à ce point trompé dans la pensée, et si on a à ce point trompé les autres, s'il y en a un qui pourrait être pensable comme le plus grand, ce serait celui-là.
Jean-Pierre
justement,
Fein.
Parce qu'il est paradoxal, parce qu'il s'est mis en dehors, et que c'est l'histoire qui l'a mis au centre, et c'est Georges Bataille. Et face à la tragédie que va vivre l'Allemagne, il est celui qui est le plus secourable pour l'Allemagne de l'après-guerre, celui qui va se retrouver proche de la grande diaspora de l'école de Francfort.
Bataille ne parle au fond que de deux philosophes, un qui lui ressemble, qui est Nietzsche,
Bernard Noël,
qui est un philosophe ivre comme lui, et philosophe du fraquement, et l'autre qui est Hegel, philosophe du système. Alors, j'imagine que Bataille est fasciné par la perfection du système et à la fois, c'est exactement ce qu'il récuse puisque le système fonctionne comme un, comment dire, comme un crâne parfaitement clos dans lequel jamais ne s'ouvrira aucun œil pinéal, enfin, qui ne sera jamais fécondé ni branlé par le soleil. Ce qui est fascinant dans la perfection du système, c'est que sans doute c'est le seul moyen d'échapper à la mort. Si le système marche, la mort n'y entre pas. Donc le système est intolérable à celui pour qui la mort est complémentaire, enfin, d'abord de l'amour. Et pour qui l'amour et la mort sont les, comment dirais-je, les deux lèvres de la blessure et aussi les deux lèvres de l'ouverture. Donc il ne peut que récuser l'un par l'autre.
Le monde des amants n'est pas moins vrai que celui de la politique. Il absorbe même la totalité de l'existence. Ce que la politique ne peut pas faire. En 1933, Georges Bataille a eu d'épisodiques relations avec Ordre Nouveau de Robert Aron, Arnaud Dandieu, Jacques Chevalet, groupe de réflexion spiritualiste révolutionnaire. Il collabore anonymement à l'élaboration du chapitre Échange et crédit de la révolution nécessaire d'Arnaud Dandieu et Robert Aron. Pour l'heure, acéphale.
La seule société pleine de vie et de force, la seule société libre, est la société bi- ou polycéphale qui donne aux antagonistes fondamentaux de la vie une issue explosive constante mais limitée aux formes les plus riches.
Pierre Prévost.
C'est à peu près ce qu'en termes moins romantiques, nous appelions, nous, à l'ordre nouveau, le fédéralisme, enfin, ou la fédération. Enfin. Et ça, c'est très important parce que c'était là. Quand il y a des gens, comme c'est encore maintenant, comme j'ai entendu, qu'on accuse Bataille ou l'Ordre Nouveau de cette époque-là, d'être des fascistes plus ou moins camouflés, des pro-fascistes ou des pro-hitlériens, ceux qui disent ça, c'est proprement des imbéciles. Je dis bien, c'est des gens qui comprennent rigoureusement rien, parce que le fascisme ou le totalitarisme, car c'est ça, est forcément monocéphale. Il y a une tête.
Le titre lui-même d'acéphale représentant, exprimant plutôt, ce qu'est la position de Bataille, c'est-à-dire un organisme assez diffus pour ne pas avoir de tête.
Bernard Noël.
Mais assez organisé pour fonctionner comme un labyrinthe, mais où dont toutes les parties sont solidaires, mais ne s'ordonne pas en fonction d'une partie centrale qui les dirigerait et les ordonnerait, mais en fonction d'une nécessité beaucoup plus interne, qui ne prendrait au fond jamais la forme d'un pouvoir. C'est-à-dire d'un ordre capable de récupérer l'énergie, non pas au profit de chacune des parties, mais à leur dépens. Ce qui est sans doute unique dans l'histoire de la pensée. Pour lui, il s'agit d'être un excitateur ou un agitateur et non pas justement une tête.
Michel Léris.
Acéphale, ça tient. C'est plutôt une espèce de face ésotérique de ce que le collège de sociologie était en exotérique. Et alors, acéphale, ça vraiment, je crois que c'est manifesté le côté fondateur de religion dont je parlais tout à l'heure à propos de Bataille. Et je vous dirais même que pour ce qui me concerne personnellement, j'ai jamais voulu être initié à acéphale. Parce que le côté initiation me paraissait absurde, je dirais. Ce que je considérais, c'était en effet, là j'étais tout à fait d'accord avec Bataille, que les choses se passent comme si un certain nombre de gens formaient une espèce de société secrète mais qu'il ne fallait absolument pas qu'une société secrète de ce genre s'institutionnalise, c'est-à-dire se pose véritablement en société secrète avec rite d'initiation, etc., etc. Ça me paraissait la dévaloriser. Et au contraire, au lieu d'être un activant, d'être l'inverse.
En mars 1936, Jean Dautry, un proche de Bataille, rédige le tract sous le feu des canons français. Tous, surréalistes compris, le signent, quoiqu'il contienne une phrase plus qu'imprudente. Nous sommes contre les chiffons de papier, contre la prose d'esclaves des chancelleries. Nous leur préférons, en tout état de cause, la brutalité antidiplomatique de Hitler, plus pacifique en fait, que l'excitation baveuse des politiciens et des diplomates. De ce tract datera l'accusation de surfascisme faite aux bataillens. Rupture des surréalistes, dissolution de contre-attaque, le surfascisme des bataillens, au sens en fait de fascisme surmonté, on va le voir, est mis en avant par Breton. Secrètement ou non, il est nécessaire de devenir tout autre ou de cesser d'être.
Il y a peut-être quelques textes de Bataille de la fin des années 30, enfin des années 39.
Bernard Noël.
Sur la guerre notamment, qui peuvent peut-être apparaître comme ambigus. Mais il me semble que cette ambiguïté tient simplement au fait que Bataille a sans doute été touché par l'espèce d'ouverture au mythologique que provoquaient les régimes totalitaires en train de se mettre en place à l'époque, et que lui, pour échapper justement à cette société du système et de l'ordre et de la rationalité, et faire exploser toutes ces valeurs de la pseudo-morale dont il avait vécu par ailleurs la faillite, et dont d'ailleurs tout l'Occident avait vécu la faillite, au moment du conflit de 1914-1918, Bataille a essayé d'imaginer l'intrusion de nouveaux mythes qu'il a probablement essayé lui-même de mettre en pratique dans la société secrète fondée autour du collège, plutôt à côté du collège de sociologie et d'Acéphale. Et qu'il y a là, dans cette volonté, comment dirais-je, de faire pénétrer le mythe dans la société, quelque chose d'un peu ambigu, si on le voit dans le contexte de l'époque, mais si on le voit avec le recul que nous avons aujourd'hui vis-à-vis de cette époque et vis-à-vis des textes, de la ponctualité des textes, qui est, je crois, sans aucune ambiguïté, qui n'exprime pas cette fascination dont on l'a accusé à l'égard du nazisme, mais simplement une attirance pour remettre du sens qui ne soit pas, qui ne relève pas seulement de la rationalité, mais qui relève de cette ouverture qu'il appelait sous le terme de communication et qui était de réinstituer du sacré dans le rapport collectif.
Il y avait une initiation à Céphale. Je ne vous dirai pas ce qu'elle est, puisque je n'ai pas été initié, et qu'il y avait un secret d'initiation qui fait que ceux qui l'ont été n'en ont jamais soufflé mot.
Michel Léris.
Ils n'ont jamais dit ce que c'était.
Qui initiait qui?
Mais j'en sais rien. Ça, le secret était bien gardé. Je suppose que c'était Bataille qui avait la haute main là-dessus. Mais c'est une simple hypothèse.
Et peut-être n'y a-t-il jamais eu d'initiation, et que c'est peut-être l'idée d'initiation simplement.
Après tout, on ne sait pas. Mais enfin, je ne crois pas. Je crois qu'il y avait vraiment une initiation. Je crois qu'il y a des gens qui, tout de même, ont reconnu, ou même déclaré qu'ils l'avaient subi, mais sans dire ce qu'elle était.
En toute réalité accessible, en chaque être, Il faut chercher le lieu sacrificiel, la blessure. Un être n'est touché qu'au point où il succombe. Une femme sous la robe, un dieu à la gorge de l'animal du sacrifice.
Michel, Fardoulis-Lagrange.
L'initiation supposait le sacrifice, de toute manière. C'est-à-dire que, à l'intérieur de cette société secrète, il était fondamental, n'est-ce pas, qu'on procède à des sacrifices, même des sacrifices humains. Or, tout le monde s'est dérobé, de toute façon. Il n'y avait personne qui donnait son consentement, n'est-ce pas, au consentement au sacrifice. À partir de là, donc, l'initiation a été... Il y avait deux possibilités dans cette initiation. Ou bien garder la loi du silence, c'est-à-dire que l'initiation se fasse par le silence, ou bien que l'initiation se fasse par le rituel, naturellement, non pas tel qu'il a été pratiqué dans le temps, disons, inhumain, enfin dans les temps sacrifice humain, c'est faisait, mais dans le simulacre du sacrifice. Donc alors, on tombe également de nouveau dans le rituel, c'est-à-dire, autrement dit, c'est à partir de là que l'initiation se faisait, voilà. Mais faute d'un sacrifice, n'est-ce pas, humain.
Georges Bataille.
Il me semble qu'on peut toujours dire ceci, c'est que l'intensité des sensations vaut à la condition qu'on puisse la supporter.
Peut-être que le croisement du social et du sacré est en soi monstrueux, mais que son résultat est l'apparition d'une dimension tout à fait nouvelle et tout à fait différente, qui est justement la réintroduction du sacré dans les rapports humains.
Bernard Noël.
Ou plutôt, d'ailleurs, c'est plutôt l'inverse, c'est qu'à partir du moment où cette dimension est réintroduite, c'est les rapports humains, les rapports sociaux qui deviennent sacrés. Ce qui est quand même un renversement complètement neuf dans le cadre de l'évolution de la pensée de ces années 30.
Le sacré, c'est au fond quelque chose dont on ne peut pas parler, je dirais presque par définition.
Michel Léris.
Le sacré, au fond, c'est ce à quoi on adhère inconditionnellement. Et c'est pour ça qu'on peut guère en parler, d'ailleurs. On peut parler autour, mais on ne peut pas parler de. Si on part simplement de la forme, on ne lui découvrira pas un contenu. C'est le contenu tout de même qui détermine quelle sera sa forme. Le rite pour le rite, ça ne veut rien dire. C'est ce qui m'avait détourné d'Acéphale, d'ailleurs. Si les choses doivent se passer comme dans une société secrète entre un certain nombre de gens, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas que ça devienne institutionnel. Il faut que ça garde toute sa fraîcheur. Et il pensait qu'il y avait tout de même intérêt à ce qu'il y ait une espèce de... Comment dirais-je, de serment entre les gens.
Bataille est le seul avec, de l'autre côté de la frontière, mais ensuite exilé, avec Ernst Bloch.
Jean-Pierre Fay.
Pour tenter d'arracher au nazisme son atout. Atout redoutable, c'est la force du fantasme, l'énergie. L'énergie ensevelie et tout à coup déchaînée du mythique. Alors, que faire? Se cantonner dans la rationalité n'est pas une sauvegarde, car justement, la rationalité va être une frontière ou une ligne de protection qui va craquer. Et tout à coup, l'invasion va se faire, comme la ligne Maginot va se faire tourner, cette ligne va être tournée du dedans. Alors, on peut dire que ce mini-groupe étrange, un peu burlesque à certains égards, d'Acéphale, c'était une tentative pour créer un petit laboratoire fantasmatique à quelques-uns et explorer la mythique.
Bataille, pour voir encore plus précisément ses rapports avec les bases d'une étude sur le fascisme.
Hans Meyer.
Bataille était, dans sa pensée comme dans ses écrits, tout à fait différent, dans un sens très profond, de Liris et de Caillois. Ils avaient en commun l'intérêt cupidi novarum rerum, quelque chose qui, dans le français, se pouvait exprimer d'une façon magnifique et ambiguë. Je parle du terme du sacré. Comment est-ce qu'on peut traduire sacré en allemand? Das Sakrale, ce n'est pas le sacré. Le sacré, dans le sens français, si je ne me trompe pas, a une étendue extraordinaire des égouts, des malédictions, jusqu'à la transcendance. C'était exactement cela qui réunissait les trois fondateurs du Collège de sociologie. Les batailles à l'encontre de Liris et aussi de Caillois avaient pensé plus tôt et plus loin. Ils distinguaient, là aussi, des formes sociales homogènes et hétérogènes. La préférence de Bataille, on le sait, était donnée aux hétérogènes. Aux hétérogènes du haut et du bas. Il dit, ce que le monde, tout ce qui est le monde homogène, repousse sous forme d'égout ou sous forme de valeur transcendante. Sur le plan des relations sociales, cela voulait dire de la sainteté de l'aristocratie jusqu'au lumpenprolétariat, comme Karl Marx l'appelait le prolétariat en haillon. Georges Bataille avait déjà publié en automne 1933 un livre, un texte sur les structures psychologiques du fascisme. Lui seul, à mon avis, à cette époque-là, semblait avoir compris que le Erwachtes Deutschland, une Allemagne éveillée, devait renoncer à toutes les formes de pensée d'une société homogène, et d'une science homogène, dans le sens qu'on respectait les tabous et qu'on respectait l'Aufklärung dans le sens traditionnel. Bataille avait compris qu'il fallait faire une Aufklärung sans rivage, comme on pourrait dire, peut-être renoncer aux frontières de la pensée pour une bonne raison, parce que la réalité allemande, la réalité fasciste, avait elle aussi renoncé à des tabous et des valeurs traditionnelles. N'oubliez pas que au début de l'époque du Troisième Reich, le sieur Hitler et les siens avaient décrété que les condamnés à mort ne devaient plus être exécutés à la guillotine, mais à la hache. Donc, un retour à des formes horribles du passé et en même temps, voilà le véritable problème que Bataille seul, à mon avis, avait compris à cette époque-là, qu'il n'y avait pas seulement un Rückkehr in die Barbarie, un retour à la barbarie, mais tout autre chose. Parce qu'il y avait d'un côté l'exécution à la hache, l'autre côté le perfectionnement des chambres à gaz à l'aide de la technologie moderne allemande. Je crois que Bataille avait compris avant même les nouvelles venant de Pologne et d'Auschwitz que tout cela faisait un ensemble. Tout cela, le retour et l'avancement en avant appartenait à la même situation d'une société qui se voulait de plus en plus hétérogène. Il avait, dans un sens beaucoup plus strict, beaucoup plus, je dirais, radical, accepté le mot d'ordre des surréalistes autour d'André Breton, « Abat la clarté française ». Ce n'est pas pour lui un terme, une blague pour épater les bourgeois. C'était une base, une véritable base de sa pensée, son fondement. Il fallait par conséquent s'occuper des Hegel. Il fallait par conséquent s'occuper des romantiques allemands, de Karl Marx, la psychologie de l'époque de Freud et ses successeurs et ses antagonistes. C'est pourquoi Bataille a cherché le dialogue avec Benjamin, peut-être aussi avec moi.
Collège de sociologie. Roger Caillois.
Quittant le surréalisme, je suis tombé très normalement sur ceux qui étaient le plus proche du surréalisme, qui l'avaient quitté, ou qui s'étaient tenus à l'écart tout en étant fascinés par le mouvement, c'est-à-dire Michel Léris et Georges Bataille, et c'est en effet avec eux que nous avons fondé tous les trois ce qu'on a appelé le collège de sociologie, qui était entre la sociologie et l'action. Le désir d'action qui était absolument chimérique, et dont la guerre a montré la vanité, hélas, d'une façon totale.
Michel Léris.
Les trois fondateurs étaient Bataille, Caillois et moi-même, et puis il y avait des gens comme Jules Monod, et puis pas mal de gens qui ont pris la parole, puisqu'il s'agissait de conférences suivies de discussions.
J'étais déprimé. Je savais qu'il y aura la guerre. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'on va survivre? De quelle façon? En ce moment, je lisais, au mois de novembre, le nouveau volume de la Nouvelle Revue Française. Et là, je trouvais un texte formidable, le texte qui m'enchantait et dont je veux citer quelque chose, le texte « Déclaration du Collège de sociologie sur la crise internationale ».
Hans Meyer.
Où il y a, par exemple, ceci. « Le Collège de sociologie voit son rôle propre dans l'appréciation sans complaisance des réactions psychologiques collectives que l'imminence de la guerre a suscité et que la fin du péril fait trop vite tomber dans un oubli qu'il faut justement appeler réparateur ou transforme rapidement dans la mémoire complice en souvenir flatteur et presque réconfortant. Les plus désemparés finissent par s'imaginer qu'ils se sont montrés des héros. Déjà, le public ajoute foi à la légende qu'il s'est conduit avec son froid, dignité et résolution. Le président du Conseil n'a-t-il pas eu l'habileté de l'en remercier? Est-il déjà besoin de dire que ces mots sont de trop beaux noms pour des sentiments auxquels ceux de consternation, de résignation et de peur étaient jusqu'alors les seuls qui convenaient? Le spectacle donné fut celui du désarroi, immobile et muet, d'un triste abandon à l'événement. C'était l'attitude immanquablement apeurée et consciente de son infériorité d'un peuple qui refuse d'admettre la guerre dans les possibilités de sa politique en face d'une nation qui fonde sur elle la sienne. On termine ce texte par les passages suivants. Le Collège de sociologie s'est défini essentiellement comme un organisme de recherche d'études. Il continue à l'être. Mais c'était réservé à sa fondation. C'est pourquoi j'en parle ici explicitement, l'éventualité d'être autre chose, s'il le pouvait, d'être un foyer d'énergie. Les événements d'hier lui suggèrent, peut-être lui ordonnent, de mettre l'accent sur cet aspect de l'entreprise qu'il s'est assigné. C'est pourquoi il prend l'initiative de cette déclaration publique. C'est pourquoi il convie ceux à qui l'angoisse a révélé comme unique issue la création d'un lien vital entre les hommes à se joindre à lui, au Collège de sociologie, en dehors de toute autre détermination que la prise de conscience de l'absolu mensonge des formes politiques actuelles et la nécessité de reconstituer par le principe un mode d'existence collective qui ne tienne compte d'aucune limitation géographique ou sociale, qui permette d'avoir un peu de tenue quand la mort menace. Paris, 7 octobre 1938, Bataille, Caillois, Léris. Je trouve qu'il est toujours utile de relire, relire ces passages-là.
Michel Suria.
Je crois qu'on peut dire au moins que la sociologie, c'est que Bataille, encore une fois, s'y retrouvait seul. Michel Léris manifestera du scepticisme vis-à-vis des enjeux intellectuels et de la rigueur scientifique, ce sont ses arguments, du Collège de sociologie, parfaitement influencé, induit par Bataille. Et Roger Caillois, pour des raisons de maladie, puis de distance, de séparation, il sera hors d'Europe à ce moment-là. Bataille se retrouvera seul à la tête du Collège de sociologie.
Jean-Michel Emmanuel.
Toute action politique, même si elle se veut de gauche, même si elle se veut extrêmement généreuse, ne peut que déboucher sur une forme de pouvoir dans sa dimension militaire. C'est Bataille lui-même qui le dit. Comment savoir si un mouvement qui se donnerait d'emblée pour antifasciste ne débouchera pas plus ou moins vite sur le fascisme? Autrement dit, dès qu'on entreprend dans un certain contexte historique d'agir, tant qu'on reste au niveau de l'action, tant qu'on reste au niveau du Napoléon que je viens, en quelque sorte, hein, on est piégé par le processus, même du pragmatisme historique. Et c'est ça la lucidité limite. Le fait que l'agent historique, le sujet de l'histoire, ne se satisfasse pas de la pureté de son intention, qu'il ne se satisfasse pas du bien fondé de son acte. Parce que n'importe quel acte, finalement, est sécurisé par un bien fondé. La pire des brutes fascistes sera toujours capable, au niveau de la raison pragmatique, de justifier son acte. Or, c'est justement le caractère injustifiable de l'acte historique dont Bataille prend conscience. Et je crois que c'est cette impasse au niveau de l'histoire à laquelle il aboutit, comme il l'explique très bien d'ailleurs dans sa lettre à Kojève, hein, le fait que sa propre révolte, que sa propre passion soit désormais sans emploi, hein, ce qu'il appelle la négativité sans emploi, bon, c'est cette prise de conscience, cette lucidité limite qui le conduit à la pratique de l'écriture. Mais ce qui est important de voir ici, c'est que l'écriture ne représente pas pour lui un emploi de secours, hein, elle n'est pas une sortie possible. L'écriture est la seule activité possible, mais en même temps, elle est une activité dérisoire. Je veux dire qu'elle n'est pas sacralisante. Mais néanmoins, elle est la seule forme de révolte qui ne conduise pas, au moment précis où écrit Bataille, vers une forme de totalitarisme. Totalitarisme de pouvoir ou totalitarisme de savoir. Quand je dis de pouvoir, j'entends d'action, et quand je dis de savoir, j'entends qu'on peut très bien cesser d'agir pour élaborer un discours dogmatique. Se prétendre prophète et délivrer une vérité universelle qui est évidemment parfaitement contraignante pour ceux à qui il s'adresse. Donc la lucidité limite chez Bataille, cela consiste à voir que la seule issue possible demeurant pour le sujet, c'est une remise en cause perpétuelle, permanente, incessante, à travers l'expérience du langage, à travers l'écriture.
Le tiers, le compagnon, le lecteur qui m'agit, c'est le discours. Ou encore, le lecteur est discours. C'est lui qui parle en moi, qui maintient en moi le discours vivant à son adresse. Et sans doute, le discours est projet. Mais il est davantage encore cet autre, le lecteur, qui m'aime et qui déjà m'oublie, me tue. Sans la présence insistante duquel je ne pourrais rien, je n'aurais pas d'expérience intérieure. Non qu'aux instants de violence, de malheur, je ne l'oublie pas, comme il m'oublie lui-même. Mais je tolère en moi l'action du projet en ce qu'elle est un lien avec celui obscur, partageant mon angoisse, mon supplice, désirant mon supplice autant que je désire le sien.
Eh bien, je peux préciser ma pensée assez facilement.
Georges Bataille.
L'intensité des sensations est précisément ce qui détruit l'ordre. Et je ne crois pas que cela ait d'autre intérêt. Il est essentiel pour les hommes d'arriver à détruire, en somme, cette servilité à laquelle ils sont tenus du fait qu'ils ont édifié leur monde, le monde humain, monde auquel je tiens, d'où je tiens la vie, mais qui tout de même porte avec lui une sorte de charge, quelque chose d'infiniment pesant, qui se retrouve dans toutes nos angoisses et qui doit être levé d'une certaine façon.
C'était Profil perdu, Georges Bataille, par Marc Floriot, avec la participation de Michel Farduly-Lagrange, Jean-Pierre Faye, Jean-Michel Aymonet, Michel Léris, Francis Marmande, Hans Mayer, Bernard Noël, Pierre Prévost, Philippe Solers, Michel Suria, et les voix de Georges Bataille, Roger Caillois et Boris Souvarine. Les textes étaient lus par Jean Dautremay. Mixage, François Gaillard. Réalisation, Arlette Dave.